Bonjour à tous.
Bienvenue dans notre live EPM.
Nous sommes ravis aujourd'hui de pouvoir passer un temps merveilleux dans la présence de Dieu tous ensemble. Mais avant de commencer, nous allons faire quelques annonces.
Alors nous commençons la semaine prochaine avec le mardi, notre temps d'étude biblique et de prière à 19h sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube.
Ne ratez pas le cours des essentiels de la foi avec Pasteur Samuel, mon cher époux ici présent, le mercredi à 19h sur Facebook en live et sur YouTube.
Et le jeudi, nous nous retrouvons à 20h pour le live EPM avec l'équipe du campus de Logne ou pour les différents Zooms de campus pour République et Bastille. Si vous n'avez jamais été connecté au Zoom, vous pouvez vous inscrire à l'adresse qui s'affiche en dessous et on vous répondra et nous vous donnerons les différentes informations nécessaires.
Le vendredi, c'est pour les jeunes adultes à Paris. Une excellente thématique sera abordée par le pasteur Leandro, les jeunes adultes qui marchent par la foi, à 21h, live Facebook.
Et le samedi, ce sont les GDM qui se retrouvent en Zoom. Si vous voulez plus d'informations, rapprochez-vous de vos leaders. Nous vous remercions dans ces temps particuliers pour votre générosité, pour les dons que nous avons reçus, et si vous voulez continuer à nous soutenir, vous pouvez le faire à travers notre site internet. Vous pouvez y aller et trouver un onglet en haut à droite, nous soutenir, et vous trouverez toutes les informations nécessaires pour nous soutenir. Mais vraiment, du fond du cœur, nous vous remercions pour votre générosité.
En ce dimanche, nous aurons aussi encore un temps fort de communion avec la Sainte-Seine, donc n'oubliez pas de préparer les éléments, le pain, le vin ou le jus de raisin, pour que nous puissions avoir ce temps fort tous ensemble. Maintenant, nous allons laisser la place au merveilleux quatuor de la chorale.
Mais avant cela, vous le savez peut-être, la chef de la chorale, Marianne, a fêté son anniversaire cette semaine. Alors je vous invite à laisser un mot gentil, un anniversaire joyeux pour Marianne, que le Seigneur la bénisse. Et maintenant, nous écoutons le quatuor de la chorale et passons un temps de louange ensemble pour préparer nos cœurs à la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.
Bon culte à tous.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes heureux de vous retrouver pour partager ces moments avec vous. Avant de laisser toute la place au quatuor qui va nous conduire dans ces instants de louange, je vous invite, là où vous êtes, à accueillir la présence de Dieu et à lui dédier ces instants. Nous servons un grand Dieu, n'est-ce pas? Alors sans plus tarder, élevez vos voix pour chanter et proclamer sa grandeur.
Je le sais, tu es là près de moi. êtes prêts à déclarer « oui, je crois en toi ».
Je l'ai toujours voulu dans mon cœur. Seigneur, merci. Merci Jésus. Ce feu brûle en moi, Seigneur Jésus. Je veux que tout le monde le voie. Me voici, Papa. Me voici là devant toi, maintenant. Là où tu es, ferme les yeux. Et réalise que tu es devant le roi des rois, le Seigneur de l'univers. Me voici, Père. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit. Nations se prosternent. Je veux. Oh, Jésus. Je veux consacrer ma vie. Ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Rends-moi sensible à ta voix, rends-moi dépendant de consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Rends-moi sensible à ta
si le tonnerre gronde, je réponds.
façonne-moi. Fais ce que tu veux de moi.
Me voici.
Merci à toute l'équipe de Louange pour ce merveilleux moment dans la présence de Dieu. En ce dimanche de Pentecôte, vraiment se réjouir d'être ensemble encore une fois. Deux communications importantes juste avant de prendre le repas du Seigneur ensemble. Simplement vous donner des nouvelles de M. Boulayan. Plusieurs nous ont contactés dans les dernières semaines, savoir comment il va dans ces derniers temps, aussi à travers les réseaux sociaux, tout ça. Simplement vous dire, il va bien. On se parle régulièrement, lui et moi. Donc il va très bien, sa santé va bien, tout va bien. Si vous ne le voyez pas, c'est que en fait M. Boulayan ne se filme pas, ne sait pas se filmer. On a tenté de faire la Sainte-Seine ensemble pour vous aujourd'hui, mais voilà, à cause des recommandations de son médecin, c'était pas possible. Donc on va essayer dans les prochains jours de le filmer, de passer un moment avec lui, vraiment que l'Église puisse le voir. Donc on vous tient au courant, mais il va bien et puis il est de tout cœur avec nous et il prie pour l'Église, il prie pour chacun d'entre nous. Quand est-ce qu'on va réouvrir à nouveau pour être en présentiel ensemble? Eh bien, nous sommes en train d'étudier les recommandations, le guide du CNEF qui fait une trentaine de pages et on a des équipes qui sont en train de l'évaluer. De travailler ensemble, de calculer, de mesurer, de faire des simulations, parce que vous savez, il y aura des distances entre chaque personne, ça veut dire qu'on perd des places, on perdra des places à l'église, il faudra aussi nettoyer avant, après chaque culte, et donc vraiment, on va vous tenir au courant, on est en train vraiment d'évaluer tout ça. Nous ne voulons pas ouvrir dans la précipitation, mais dans la paix, et aussi dans la prudence, on veut vraiment vous accueillir dans les normes sanitaires et selon aussi les recommandations du gouvernement. Donc, on n'est pas pressé d'ouvrir, mais on veut réouvrir et on va réouvrir. Donc, on va vous tenir au courant. Mais juste pour vous donner un petit peu de ces infos, nos équipes sont en train vraiment de s'y mettre et de travailler là-dessus. On s'approche maintenant de la table du Seigneur, du repas du Seigneur. C'est un moment important pour nous. Et Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, vous savez, lors du dernier repas, une simple phrase. Il a dit « Faites ceci en mémoire de moi. » Faites quoi? Eh bien, il a dit « Prenez le pain, prenez le vin. » Et pourquoi on fait ce qu'on fait? Eh bien, dernièrement, j'ai lu un texte qui était tout simple, mais qui m'a vraiment interpellé sur la Sainte-Seine. C'était en fait un texte d'introduction d'une traduction de la Bible qui disait tout simplement que la Bible, oui, nous les chrétiens, on la reconnaît comme la parole de Dieu, mais il ne faut jamais oublier que la Bible aussi est un livre d'alliance. La Bible, c'est un livre d'alliance. D'alliance au pluriel. D'alliance entre Dieu et ceux qui viennent à lui. Il y a eu une ancienne alliance entre Dieu et Israël. Il y a eu des anciennes alliances, mais il y a aussi une nouvelle alliance. Dieu a fait des alliances aussi personnelles qui étaient un présage, une prophétie de cette grande nouvelle alliance qu'on va témoigner ensemble dans un instant. Dieu fait alliance avec Abraham, qui annonçait la nouvelle alliance qui allait venir avec Jésus-Christ. Dieu a fait une alliance avec David, qui était annonciatrice, qui était un présage, une prophétie de cette grande et merveilleuse nouvelle alliance que nous avons avec Jésus. Votre Bible est divisée en deux parties. L'ancienne et la nouvelle alliance. Et ce qui la plus grande séparation de toute la Bible, la plus grande démarcation de toute la Bible, c'est celle qui trace une ligne entre l'Ancien Testament, qui veut simplement dire ancienne alliance, et le Nouveau Testament, qui signifie nouvelle alliance. Un testament, un héritage, une alliance, c'est le même mot en grec, en hébreu, c'est très intéressant. Et Jésus est venu. Et le soir de la Pâque, il a pris le pain, il a pris le vin et il a fait ce symbole d'alliance entre nous, entre lui et son Père. L'alliance est entre Jésus et son Père parce que nous, on n'est pas dignes de faire cette alliance et nous ne pouvons pas tenir notre part de l'alliance. Mais comme Paul l'explique, on se cache en Jésus. En Jésus, nous entrons. Dieu a une alliance avec son Fils. Et c'est la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, l'Ancien Testament, c'est Dieu avec Israël. Israël a échoué, c'est une histoire d'échec. Ils n'ont jamais réussi, c'est ce que Paul va expliquer aussi aux Romains, aux Galates. C'est ce que les hommes n'ont jamais réussi à tenir leur part du contrat, leur part de l'alliance, leur part de cette entente avec Dieu. Alors Dieu a envoyé son Fils qui lui-même a fait une alliance par sa vie. Et c'est pour ça qu'il dit, prenez ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, c'est ma vie que je donne pour vous. Et ce qui est extraordinaire, Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Alors, on ne le fait pas par rituel, on ne le fait pas par liturgie, par habitude. Nous ne voulons pas aussi le faire dans l'ignorance, nous voulons comprendre. Maintenant, j'avouerai que chacun d'entre nous aujourd'hui, nous ne comprenons qu'une parcelle de l'alliance que nous avons avec Dieu. En Jésus-Christ et par Jésus-Christ et dans sa vie et par son sang, nous n'en comprenons ici sur terre qu'une infime partie. Et je pense que nous passerons l'éternité à être émerveillés de la grandeur, de l'infinitude de cette alliance. Mais Jésus est venu nous sauver et nous faire entrer dans une alliance avec Dieu. Et maintenant, il est lui le premier héritier. Et Paul dit, nous devenons co-héritiers avec lui. Alors si vous le voulez bien, maintenant, on va s'approcher. J'espère que vous prenez ce moment au sérieux avec nous, je l'espère, je le crois, et que vous avez ce qu'il faut à la maison. Et on va prendre maintenant le pain et le vin ensemble. Et
merci.
Voilà.
Merci.
Et Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et toutes les fois que vous le faites, vous annoncez. Et on le fait ensemble, ça peut paraître peut-être rituel aux yeux des gens qui ne comprennent pas, mais ça a un sens très profond pour nous. Nous annonçons cette nouvelle alliance, on a un contrat avec Dieu. Pourquoi le pain, pourquoi le vin? Il y a beaucoup, beaucoup de signification, de profondeur, que ça représente son corps, ça représente sa vie, son sang, le sang de la nouvelle alliance. Et on sait que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas d'alliance qui était faite sans que le sang soit versé. Mais c'était aussi à l'époque une façon entre deux hommes de faire un contrat, on l'a déjà vu ensemble ça. Et Jésus a dit, c'est un témoignage, ce que nous témoignons aujourd'hui ensemble au monde, que nous, l'Église, nous les enfants de Dieu, nous avons une alliance, un testament, un contrat et un héritage en Jésus-Christ avec Dieu lui-même. Prenons le pain et prenons le vin. Amen.
Merci.
Abby, est-ce que tu peux prier?
Seigneur, on veut te remercier pour qui tu es, Seigneur, pour tout ce que tu représentes pour nous et pour tout ce qu'on veut découvrir en plus de toi, Seigneur, parce que tu es tellement infini, Seigneur Jésus, qu'on en apprend toujours plus de toi, Seigneur, et on veut te dire qu'on t'aime, Seigneur, on veut te remercier, Seigneur, de nous avoir préservés, Seigneur Jésus, d'avoir été là, Seigneur, quand il y a eu la maladie, Seigneur, pendant le confinement, Seigneur, pendant le Covid, Seigneur, et on veut te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu veux faire, Seigneur, tout ce que tu entreprends, Seigneur, parce que ta volonté est parfaite, Seigneur, dans nos vies, Seigneur Jésus, et pour Paris, Seigneur, et on veut te dire qu'on t'aime. Amen.
Amen.
Amen. Et maintenant, place à Pasteur Didier pour cette bonne parole que le Seigneur lui a donnée pour chacun d'entre nous. Et à très bientôt à vous.
Merci.
Bonjour frères et sœurs, c'est pour moi une joie de pouvoir partager avec vous ce matin la parole de Dieu. On s'est déjà fait du bien au travers de la louange, la proclamation de la parole de Dieu. C'était extraordinaire. Merci pour ces temps de bénédiction que nous avons eu ensemble. Je voudrais maintenant vous prendre un petit peu de votre temps et partager avec vous une pensée que j'ai sur mon cœur. Je voudrais vous parler des frustrations. Qui n'a pas été frustré un jour dans sa vie? Je crois que nous avons tous été plus ou moins à un moment donné touchés, impactés par les frustrations. Frustration par manque de réussite, frustration peut-être au niveau professionnel parce que nous n'avons pas peut-être eu accès à un poste qu'on aurait tellement voulu avoir, peut-être frustré parce que tu es célibataire et que tu aimerais construire un futur avec ton conjoint, frustré parce que tu es dans ta vie de couple mais que ça ne marche pas comme tu voudrais que ça marche. Tu es frustré peut-être au niveau de ton service dans l'Église parce que finalement tu aimerais tellement que ça aille plus loin, tu aimerais tellement qu'on croit en ce que tu fais et tu es frustré au plus profond de ton cœur. Bref, ce que tu vis, ce n'est pas ce que tu voudrais vivre. Et j'aimerais que ce matin on prenne du temps et que tu puisses vraiment être amené à vivre ce qu'aujourd'hui tu ne peux pas vivre et qui a engendré chez toi des frustrations, peut-être même des blessures à force, parce que ça crée des racines d'amertume tout cela finalement. Quand la frustration n'est pas brisée, n'est pas séchée, eh ben ça s'alimente et ça crée toutes sortes d'émotions qui sont négatives. Maintenant attention, il y a certaines frustrations que j'appelle passagères. Elles sont normales, hein, d'avoir raté peut-être l'occasion de quelque chose. On passe à côté. Je me rappelle de mon témoignage de conversion. J'ai pas dit tout ce que j'aurais voulu dire parce que j'avais peur. J'étais dans la crainte. J'étais en même temps un petit peu paniqué face à la situation que j'étais en train de vivre. Et j'ai oublié de dire la moitié de mon témoignage. Et puis à la fin de la réunion, j'étais frustré. Surtout que ça, je pouvais pas revenir en arrière, on pouvait pas recommencer le baptême. Alors c'était terminé, c'était un temps qui ne reviendrait plus. Et finalement, ça crée une certaine frustration. Elle est normale parce que on aurait tellement voulu dire des choses à ce moment-là, et ce moment est passé et il ne reviendra plus. Après, il y a une autre frustration qui est beaucoup plus profonde, qui va poser beaucoup plus de problèmes lorsque la frustration est permanente. Je dirais quand la frustration est chronique et qu'elle est là et qu'elle dure dans le temps. Alors là, elle engendre des racines d'amertume. Et là, il y a un souci. Il y a un souci quand ça commence à créer une certaine amertume, qu'il y a une perpétuelle frustration qui est là, une insatisfaction, parce que ça engendre toutes sortes de mauvaises choses, même autour de nous, hein, dans notre foyer, auprès de nos amis, de nos frères et sœurs de l'Église. Quelqu'un de frustré, chronique, vraiment n'engendre pas la paix. Bien au contraire, il crée un malaise, il crée une situation qui n'est pas bonne. Déjà parce que lui-même, il n'est pas bien, alors finalement, il va transmettre ce mal-être autour de lui. De ce fait, eh ben, il existe des frustrations qui proviennent de réactions intérieures, comme par exemple le fait de ne pas être compris, le fait de ne pas être écouté, respecté, le fait d'être accusé à tort de quelque chose dont on n'est plus rien. Je connais plusieurs chrétiens qui ont été accusés à tort au niveau de leur travail, alors qu'ils y étaient pour rien, mais c'était tellement plus facile de les accuser eux. Certains par rapport au fait d'avoir été trahis, d'avoir été méprisés. Et puis vous avez d'autres frustrations qui sont là à cause d'une vie affective platonique, une vie sexuelle aussi peut-être absente, matérielle, professionnelle ou même spirituelle. au fait que, au niveau spirituel, je n'atteins pas le Graal, je ne saisis pas des dimensions que d'autres saisissent. Il y a de grandes frustrations dans notre cœur, il y a une forme même de blessure à l'intérieur, la frustration, cette frustration qui va rougir de l'intérieur, parce que la frustration ne se voit pas forcément. Vous voyez, la colère, autant la colère va se voir par l'expression que la frustration, elle est intérieure. Souvent, beaucoup de gens gardent cela à l'intérieur d'eux. Et si elle n'est pas traitée, elle va naître de l'agressivité. Elle va naître toutes sortes d'émotions négatives. Souvent, la frustration provient de l'insatisfaction. On peut ne pas être satisfait de quelque chose, mais quand l'insatisfaction est chronique, la frustration est chronique. Et ça emmène toutes sortes de douleurs, de blessures à l'intérieur. Ou quand on se sent privé d'un avantage, alors qu'on pensait l'avoir, on croyait le disposer, eh bien ça nous échappe. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui avec le confinement. Alors que là, on vient d'en sortir, mais d'autres sont encore confinés. Le confinement était un facteur de puissante frustration pour beaucoup de gens. Je regardais une émission aux infos, je regardais un reportage aux infos, et des gens étaient frustrés d'avoir été privés de plage, d'avoir été privés de sport, d'être privé de restaurant. Vous voyez, des choses au quotidien qui étaient basiques, dont ils avaient accès tout le temps. Et bien là, le fait qu'on les prive de ça a créé, a engendré chez eux de profondes frustrations. Certains sont frustrés parce que finalement, ils n'ont pas pu se marier. Il y a annulation de mariage, annulation de voyage, il y a eu des annulations ou de reports d'événements, il y a eu aussi des annulations de projets, et que dis-je, des églises qui sont fermées. Certains ont été frustrés de ne pas pouvoir vivre une vie de culte. Alors vous voyez, on peut être frustré de plein de choses. Chacun a son lot de frustrations. Alors moi je pose la question, ce matin je vous la pose et je me la suis posée, quel enseignement peut-on tirer de nos frustrations ? Il y a un texte de la parole de Dieu que je voudrais vous lire, c'est Paul qui en parle, aux Philippiens au chapitre 4, au verset 11, il dit ceci, « Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que je sais. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et à toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. » C'est la grande leçon de Paul, de se contenter de ce qu'il a, de ne pas tomber dans ce piège. Il n'est pas tombé dans le piège de la frustration. Et pourtant, il avait plusieurs occasions à ce moment-là, puisqu'on a remis en cause l'authenticité de son ministère. Les apôtres se demandaient si vraiment il avait reçu l'appel au ministère. Et même avant, ils se demandaient s'il était vraiment converti. Ça pouvait créer chez lui toutes sortes de frustrations. On voit aussi un peu plus loin dans la parole, alors qu'il demande au Seigneur d'enlever l'écharde dans son corps, le Seigneur lui dit « Mais ma grâce te suffit ». Quand on voit aussi encore un peu plus loin dans les Écritures, la dispute avec Barnabas, je dirais sur Marc, à cause de Marc, là aussi il y a toutes sortes de frustrations, mais dans tout ça, il s'est évité de tomber dans ce piège. Il a appris à triompher de ses frustrations. Peut-être qu'il a été frustré, parce que c'est un homme comme vous et moi, mais une chose est sûre, c'est qu'il n'est pas tombé dans ce piège, il n'est pas rentré dans la frustration chronique. Et bien des drames ont leur source dans le sentiment de frustration justifié ou pas. Et ça a créé toutes sortes d'émotions négatives, toutes sortes de blessures qui étaient inutiles. Alors je voudrais m'arrêter sur deux personnages ce matin, que je retrouve dans l'évangile de Luc, deux frères dans la maison du Père. Vous connaissez ce texte, c'est le fils prodigue. Et là, on retrouve quelque chose de très important. D'habitude, on oppose les deux frères, mais dans ce texte, au travers de ce sujet que je vais vous apporter, ils ont deux points communs. C'est la frustration. Tous les deux sont frustrés. Et on va le voir ensemble. Déjà, dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, verset 11, il est dit ceci. On va lire juste ces deux versets. Un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses deux fils. Remarquez une chose très importante là, le Père est extrêmement bon parce qu'il ne partage pas seulement l'héritage au premier qui doit partir, mais il partage l'héritage aux deux fils. C'est-à-dire que dans ce texte, ce qui est très important, c'est que le Père ne fait pas de favoritisme. On va y revenir dans quelques instants et vous allez voir pourquoi c'est important. Le jeune est frustré. Frustré de vivre une vie à la maison, avec tous les privilèges. Frustré de vivre sa vie avec papa, avec maman, avec son frère et puis peut-être avec tous ses serviteurs qui sont là. Et il veut vivre sa vie comme bon lui semble. Et vous connaissez l'histoire, la parole de Dieu nous dit qu'il va vivre auprès des prostituées, il va dépenser tous ses biens dans la débauche, il va tomber très très bas, et puis à un moment donné, ben, il va se retrouver à garder les cochons et à manger même la nourriture des cochons. Et là, il y a quelque chose de très fort puisque il va réfléchir sur son état, sur sa situation, il va se lever, il va aller auprès du Père. Et la parole de Dieu nous dit que son Père l'accueille sans reproche, bien au contraire. Il accueille avec joie, avec amour, il ne l'accuse pas, il ne le condamne pas. Et il est dit ceci au verset 25, de très intéressant. Regardez avec moi. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ, quand le jeune revient à la maison. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Et le garçon lui répondit, « C'est ton frère qui est de retour. » Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il a retrouvé sain et sauf. Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit, il l'invita à entrer. Mais il répondit, « Cela fait tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous les biens sont à toi. Mais il fallait bien que je fasse une fête et me réjouir puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. » Ce texte est très fort. Il est dit, mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tu pouvais à tout moment, je dirais, jouir des biens qui t'appartiennent. Et ce texte est très, très important parce que le Père n'a jamais fait de favoritisme. Rappelez-vous, il a donné l'héritage aux deux, pas à un seul. Il aurait pu profiter lui aussi de son héritage, le grand. Il aurait pu jouir aussi de cette vie puisqu'il savait très bien que finalement, il pouvait vraiment bénéficier de toutes les richesses qu'il avait à la maison. Mais le grand frère avait beaucoup de colère, avait beaucoup de frustration, il avait beaucoup d'amertume. Il pensait avoir plus de droits que son petit frère. Il pensait que finalement, il pouvait lui jouir des bienfaits, je dirais, de cette maison plus que son petit frère. Et combien d'enfants de Dieu ont le même sentiment de frustration, ce même sentiment de dire mais je vais au culte, je m'investis, je donne ma dîme, je compte pas mon temps, finalement je sers le Seigneur avec passion, avec force, avec puissance et tu te dis mais je sers alors que dans mon couple ça va pas, je sers dans l'église mais finalement c'est dur de joindre les deux bouches tous les mois, tu sers dans l'église et tu galères au boulot, tu es là dans l'insatisfaction, tu es là dans de frustration alors que tu sers le Seigneur, alors que tu aimes ton Dieu et tu n'apprécies plus ta vie chrétienne offerte par Jésus parce que tu vois des réalités autour de toi et que toi tu ne les vis pas. Et plus que cela, tu attends un baptême du Saint-Esprit et voilà que là vient pour un dimanche une personne pour la première fois, elle est touchée par la puissance de Dieu, elle est touchée par la grâce de Dieu, elle se repent de ses péchés, elle s'abandonne en Dieu et bing, elle est baptisée du Saint-Esprit le même jour. Et là, ça crée chez toi toute forme d'émotions négatives, tu en veux à la terre entière. Tu en veux à l'église, tu en veux aux chrétiens, tu en veux peut-être même à Dieu et tu es frustré au plus profond de ton cœur. Peut-être que ça te parle, ça. J'ai connu quelqu'un qui a quitté l'église à cause de ça. Parce qu'une personne nouvelle était venue baptiser du Saint-Esprit, elle, ça faisait des années qu'elle demandait le baptême, qu'elle ne recevait pas. Et tout ça, vous savez, vraiment, c'est quelque chose qui peut blesser plus profond des cœurs. Être frustré parce que tu vis une frustration chronique. Et certaines personnes subissent au lieu de vivre leur vie chrétienne. Est-ce que tu subis ta vie chrétienne? Est-ce que peut-être dans ce temps de confinement, tu as pu te réajuster avec Dieu? Tu as pu peut-être t'aligner avec le cœur du Père? Peut-être que tu t'es remis en question et je le souhaite de tout mon cœur. Je souhaite vraiment que tu aies pu rencontrer et remporter des victoires. Mais est-ce qu'avant le confinement, tu ne vivais pas une vie de souffrance, une vie chrétienne de souffrance? Parce qu'il y a des chrétiens qui vivent et qui subissent leur vie chrétienne. Ça ronge de l'intérieur. Le problème du grand frère, c'est qu'il se croyait serviteur, plus serviteur que fils. Et peut-être que c'est ton cas. C'est que peut-être dans l'église, eh bien, tu te vois plus serviteur que fils. Tu vois le côté plutôt service que les privilèges du fils qui peut avoir tout en abondance, tout avec bénédiction. Tu penses que c'est par le mérite que tu pourras avoir vraiment les joies de recevoir les bénédictions de Dieu. Et la bonne chose dans la frustration quand même, parce qu'il y a des bonnes choses, c'est que cela prouve que la chose te tient à cœur. Elle te tient à cœur. Parce que t'aimerais tellement bien faire que tu te sens frustré, mais ça t'amène à des frustrations qui te blessent. Mais c'est vrai que quand ça nous tient à cœur, ben ça change tout quand même. Parce qu'on y tient, c'est comme les enfants. On veut les éduquer, mais on s'aperçoit que c'est pas toujours facile, surtout à l'adolescence. C'est parfois compliqué, alors on se sent frustré parce qu'on n'arrive pas à les accompagner, on n'arrive pas à les aider, parfois ils nous écoutent pas. Il y a toutes sortes de frustrations qui sont là dans le cœur des parents. Et ça, parce que ils nous touchent, parce que ce sont nos enfants. Mais si c'était les enfants du voisin, ben ça vous toucherait moins, parce que ça ne vous concerne pas, je dirais de loin en tout cas, ça ne vous toucherait pas comme ça touche vos enfants. Alors Dieu veut que ce matin tu puisses vaincre la frustration, que tu puisses briser cette frustration, et que tu puisses faire la différence ce matin avec la grâce de Dieu. Alors pour terminer, je voudrais te donner 4 conseils. 4 conseils qui vont peut-être déterminer ton futur. Pour cela, il te faut comprendre que tu n'as pas besoin de performer car tu es fils ou fille du roi. Tu n'as pas besoin de performer. Tu n'as pas besoin de montrer, je dirais, toutes sortes de résultats. Dieu n'en est pas là avec toi. C'est la grâce qui est sur ta vie. Dieu n'est pas là à compter des points pour savoir qui est le meilleur d'entre nous. Les disciples ont fait, ils se sont trompés. Vous voyez, parce qu'ils voulaient essayer de se positionner. Celui qui ne se positionnait pas se sentait de suite frustré. Mais le Seigneur a dit, arrêtez, c'est pas ce que je veux de vous. Cool. La vie chrétienne, elle est plus claire, elle est plus facile que ça. Tu te mets la pression et le Seigneur voudrait que tu brises cela. Alors, comprends une chose. Dieu ne veut pas que tu viennes à lui avec tes performances. Mais en tant que fils et fille de Dieu. Deuxième point et deuxième conseil que je voudrais te donner, tu n'as rien à prouver. Non, tu n'as rien à prouver à Dieu. Dieu sait, Dieu connaît toute ta vie, Dieu connaît ton parcours, ton histoire. Tu n'as rien à prouver à Dieu. Comme tu n'as pas à performer, tu n'as rien à prouver à Dieu. Et si tu n'as rien à prouver à Dieu, alors tu n'as rien à prouver aux hommes. Parce que si vraiment il y a une personne à qui tu devrais te prouver, c'est tout simplement à Dieu. Mais pas aux hommes, ni à tes parents, ni à ton papa, ni à ta maman. Tu n'es pas là à leur montrer exactement qui tu es à leurs yeux, parce que à leurs yeux, tu es son enfant et ça suffit pour eux. Tes parents ne vont pas plus t'aimer si tu performes davantage. Oh, ils vont être peut-être fiers de toi dans certains domaines, mais ils vont pas plus t'aimer ou moins t'aimer en fonction des performances. Parce que tes parents restent tes parents et ils aiment avec le cœur, non pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Et ça, c'est quelque chose de très important. Troisième point que je voudrais voir avec vous, lâche prise. Lâche prise. Laisse le Saint-Esprit agir. Laisse le Saint-Esprit agir en profondeur en toi. Laisse agir de manière puissante sur ta vie. Autrement, tes émotions vont dominer l'onction en toi. Et quand les émotions viennent dominer ta vie, l'onction, elle ne peut pas s'exprimer. Or, l'onction de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. La faveur de Dieu est sur toi. Mais les frustrations sont tellement venues ternir, bloquer, scléroser l'action du Saint-Esprit. Et tu remarques que quand il y a des frustrations qui viennent prendre place en toi, et qu'elle perdure, eh bien, tu ne sens plus la présence de Dieu. Tu lis la Bible parce qu'il faut la lire, mais tu sens plus que cette parole vient t'alimenter, vient te nourrir. Tu n'arrives plus à saisir vraiment cette dimension dans l'esprit. Tu n'arrives plus vraiment à rentrer dans la grâce, dans la présence de Dieu. Tu ne ressens plus forcément les choses comme tu les ressentais. Pourquoi ? Parce que les frustrations viennent scléroser l'onction. Et Dieu voudrait vraiment que tu lâches prise et que tu laisses le Saint-Esprit agir, que tu laisses Dieu agir, afin que tu diminues et que Dieu croisse en toi, que sa présence vienne vraiment te toucher de manière particulière. Puis le quatrième conseil que je voudrais te partager, c'est dans le psaume 119, verset 11, il dit « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Et la parole de Dieu, liée avec l'onction du Saint-Esprit, c'est une bombe. C'est une bombe, c'est un antidote à la frustration. Et il dit ceci de très fort au verset 17 de ce psaume. Il dit « Fais du bien à ton serviteur, à ta servante, pour que je vive et que j'observe ta parole. » Merci pour ta parole, parce que c'est une lumière donnée aux hommes qui nous fait connaître ton cœur, Seigneur. Alléluia. Et cette parole, quand elle vient, je dirais accompagnée de l'onction, je viens de te le dire, c'est une bombe. C'est quelque chose de puissant qui va briser cette insatisfaction, qui va briser cette frustration chronique, qui va t'amener à voir d'autres réalités, qui va te faire prendre de la hauteur et ne pas te laisser piéger par les bassesses de ce monde, afin que tu laisses Dieu agir de manière puissante, de manière vivante, alléluia, afin qu'au travers de la parole de Dieu et de l'onction de Dieu, tu sens vraiment que Dieu est en train d'œuvrer et tu vas te sentir aiguisé, puissamment, je dirais, serviteur de Dieu entre les mains du Maître. Alors du coup, ben, tu perds les choses d'ici-bas, mais tu vas vraiment servir et tu vas vraiment, je dirais, cerner la réalité divine dans ta vie. Du coup, tu sers non pas pour performer, mais tu sers car tu te sens aimé. Tu sers car tu te sens aimé, alléluia, non pas pour performer. Tu ne sers plus pour tout simplement, je dirais, performer ou prouver aux gens qui tu es. Ça sert à rien tout cela. Tu vas servir parce que tu es aimé du Maître. Et vous savez, quand on sert avec amour, ça passe tout seul. Et là, par contre, ben, on est vraiment performant. Là, par contre, on est vraiment aiguisé. Là, par contre, on est vraiment, vraiment, vraiment puissant entre les mains du Seigneur. C'est comme ça. On n'essaye pas, on ne force pas. C'est comme l'amour. On ne force pas à aimer quelqu'un. C'est parce qu'on aime qu'après, ça va tout seul et qu'on peut avoir une alchimie avec son conjoint au travers de l'amour. Pas le contraire. Et je crois que ce que Dieu veut vraiment te faire prendre comme réalité, faire prendre conscience, c'est que la frustration t'a bien souvent bloqué, paralysé, sclérosé, arrêté sur un chemin extraordinaire que Dieu a préparé d'avance. Alors je vais terminer avec un dernier verset dans Ésaïe, au chapitre 41, verset 10. Il est dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, alléluia, on va prier dans quelques instants pour que Dieu vienne à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Waouh! Je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu te saisit ce matin. Dieu te prend ce matin. Il te prend dans ses bras et veut vraiment t'amener plus loin. Et puis, à l'issue de ce message, à l'issue de ce moment de culte ce matin, eh bien, je voudrais t'inviter tranquillement tout à l'heure à réfléchir à tout ce que je viens de partager et je voudrais t'inviter à aller dans le psaume 13. Pourquoi ? Parce que le psaume 13, c'est le psaume des frustrations de David. Et une fois que tu auras lu ce psaume, il est très court, hein, tu t'arrêtes au verset 6, c'est le dernier verset. Et j'aimerais t'inviter à méditer le verset 6 du psaume 13. Et tu vas voir les dimensions, et tu vas voir les promesses que Dieu a pour toi, que Dieu a pour ta vie. Alors, vraiment réalise ce matin que le Seigneur, il est là, il vient à ton secours, il te soutient de sa droite triomphante. Voilà, je voudrais prier maintenant, prier pour chacun d'entre vous, prier pour toi, mon frère, ma sœur, prier pour que Dieu agisse de manière efficace, de manière puissante. Alors que vous êtes là, derrière votre écran, si vous voulez vraiment que Dieu vienne agir dans votre vie, ben, mettez dans le chat « Amen ». Voilà, vous écrivez « Amen ». Hein, vous dites ouais, « Oui, moi je le veux, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de saisir une victoire, j'ai besoin vraiment de la droite de Dieu, de cette droite triomphante, de cette main puissante de Dieu dans ma vie ». Alors vous mettez des « Amen ». Et vos « Amen », ce sera tout simplement cette main qui se lève en disant « Moi, je veux saisir ». ma destinée. Je veux vraiment briser mes frustrations, mes insatisfactions et capter le cœur de Dieu et vivre les promesses que le Seigneur a pour ma vie. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma sœur. Prions maintenant ensemble. Seigneur, je veux te prier et je veux te remercier pour l'occasion que tu nous donnes ce matin à saisir ton cœur, à, Seigneur, saisir ta main triomphante, ta main droite triomphante. Parce que nous savons qu'au travers de cette main, tu es cette main triomphante, cette main de bénédiction, cette main de victoire, cette main qui va briser les frustrations. Alors Seigneur, nous voulons te saisir ce matin. Et nous voulons te dire, oui Seigneur, viens prendre ma vie, viens me saisir ce matin, viens briser toutes ces frustrations qui ont pris place en moi, qui ont amené vraiment toutes sortes de douleurs, toutes sortes d'émotions négatives, toutes sortes de colère, d'animosité. Seigneur Jésus, viens briser les frustrations chroniques qui ont pris place dans ma vie, Seigneur. Peut-être dans mon couple, peut-être, Seigneur Jésus, dans mon célibat, peut-être, Seigneur, dans mon travail, Seigneur, dans l'église, dans mon service. Seigneur, viens briser au nom de Jésus ces frustrations, Seigneur Jésus, qui m'ont paralysé. Seigneur Jésus, les frustrations qui ont, Seigneur, tenu, Seigneur, l'onction qui était là sur ma vie. Seigneur, je veux vraiment te laisser toute la place, lâcher prise ce matin. Seigneur Jésus, je ne veux rien prouver. Je ne veux pas performer, Seigneur, devant toi ce matin. Je ne suis pas là, Seigneur Jésus, à prouver quoi que ce soit. Tu me connais, tu connais mon cœur, tu connais ma vie. Seigneur, je veux serrer ta parole contre moi. Je veux vraiment la mettre en pratique, Seigneur, dans ma vie. Je veux vraiment que ton onction, Seigneur Jésus, prenne toute la place et me conduise, Seigneur, dans mon futur. Seigneur, je veux lâcher complètement ma vie entre tes mains et saisir une pleine victoire. Seigneur Jésus, face à la frustration, je veux briser cette frustration dans ma vie. Je veux briser, Seigneur, ces œuvres négatives en moi afin de pouvoir être, Seigneur Jésus, vraiment un serviteur utile et propre à ton service. Que ton nom soit béni ce matin, Seigneur Jésus, sur nos vies. Merci pour mon frère. Et pour ma sœur, Seigneur Jésus, qui, Seigneur, ont levé la main au travers de ces Amen. Merci pour eux, merci pour leur cœur, merci pour qui ils sont. Je prie pour chacun, Seigneur Jésus, de ceux et celles qui sont là, Seigneur, derrière leurs écrans, que vraiment tu viennes toucher leur cœur et que tu les amènes vraiment à prendre une pleine, une totale, une entière, une complète victoire, Seigneur, sur leur vie, dans le beau et dans le précieux nom de Jésus. Amen. Et Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse maintenant et que vraiment vous puissiez saisir toutes ces paroles parce qu'elles sont pour vous et je veux croire que le meilleur est devant vous. Alors que Dieu vous accompagne.
Là devant toi maintenant, là où tu es, ferme les yeux et réalise que tu es devant le roi des rois, le Seigneur de l'univers.
Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Me voici con... fais ce que tu veux. Je veux consacrer ma vie pour que ton royaume vienne, revêtu de ton esprit, que les nations se prosternent. Rends-moi sensible à ta
ce que tu veux de moi.